Bah, bonjour à tous, en tout cas, merci d'être ici. Alors peut-être comme vous l'avez peut-être lu dans l'intitulé de cette présentation, je voudrais tenter un rapprochement entre deux œuvres assez foisonnantes et très différentes a priori, à savoir un livre qui s'appelle Berlin Alexanderplatz de Dublin, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, et une œuvre essentiellement filmique, celle de Fassbinder, que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent aussi. Voilà. Donc, on peut parler, dans le cas de Fassbinder, on peut parler d'une influence, par exemple, des films de Douglas Sirk. Les mélodrames de Douglas Sirk ont véritablement marqué Fassbinder, ont été une influence très forte pour lui. Dans le cas de Dublin, c'est bien plus qu'une influence. On peut vraiment parler dans l'intitulé, j'appelais ça une dévoration. On peut parler d'une emprise. C'est quelque chose de très singulier qui s'est joué entre ce livre et la vie et l'œuvre de Fassbinder. Donc, je ne vais pas du tout pouvoir être exhaustif. Hein. Je vais tenter des espèces de rapprochements entre ce livre et ses films. Comme vous le savez sans doute, l'œuvre de Fassbinder est très prolifique. Hein. C'est près de 43 films, sans compter les pièces, les adaptations, etc. Mais j'ai isolé quelques moments qui me paraissent assez significatifs pour souligner cette espèce d'emprise, ce jeu étrange, cette espèce de corps à corps presque, hein, entre un livre et un cinéaste et des films. Alors, Fassbinder s'en est très largement expliqué. Hein. Moi, il se trouve que, pour la petite histoire, je pense que le premier film que j'ai vu de Fassbinder, ça doit être Querelle, mais j'ai beaucoup découvert Fassbinder par ses textes, par ses textes de circonstances, des articles qui sont souvent très polémiques, très vifs et extrêmement brillants et qui sont toujours des espèces de solutions pratiques à des problèmes. Donc toute la partie vraiment essayistique, si on peut dire, de Fassbinder, et notamment ces articles qui ont été recueillis dans un volume qui s'appelle « Les films libèrent la tête ». Et si vous avez l'occasion d'ouvrir ça, c'est vraiment génial. Et donc dans un de ces textes de Fassbinder, j'ai découvert ce qu'il écrivait sur Dublin. Alors, il explique que c'est une rencontre, une lecture donc, qu'il fait vers l'âge de 14 ou 15 ans, et il dit que ce livre, littéralement, l'empêche de crever. Que c'est vraiment, ça marque une véritable césure dans sa vie. Première découverte du livre à 14-15 ans. Ce texte, hein, donc, que je vais pas mal citer, ce texte de Fassbinder sur Dublin, est à la fin de l'édition l'édition folio du livre. Donc première lecture vers 14-15 ans, et deuxième lecture ensuite, et là je vais vous lire l'extrait, deuxième lecture qui là est une véritable révélation. Lors de cette deuxième lecture, il m'est apparu de plus en plus clairement, page après page, d'abord dans l'étonnement, puis peu à peu dans l'angoisse, si touché enfin que j'étais presque obligé de me boucher les yeux et les oreilles, de refouler, donc, il m'est apparu de plus en plus clairement, là, qu'une immense partie de moi-même, de mes comportements, de mes réactions, de toutes ces choses que j'avais tenues pour ma propre personne, pour moi-même, n'était rien d'autre que ce que Dublin décrit dans Berlin Alexanderplatz. J'avais tout simplement, et sans en avoir conscience, fait de l'imaginaire de Dublin ma propre vie. Voilà. Donc, comme on sait que dans le cas de Fassbinder, la vie et l'œuvre sont extrêmement entremêlées, hein, qu'il y a des passages constants, avec très indécents d'ailleurs, hein, très impudiques, des passages constants entre la vie privée et l'œuvre, quand il parle de cette influence là, de Dublin, cette trace de Dublin dans sa vie, on imagine bien qu'on va la retrouver dans l'œuvre. Alors, je vais quand même revenir un tout petit peu sur le texte de Dublin. Vous me dites si je vais trop vite, hein, parce que forcément, ça beaucoup me servir de ce texte qui n'est pas forcément le plus connu du monde, mais je vais revenir un tout petit peu sur le texte de Dublin. Qu'est-ce que Fassbinder y trouve finalement? C'est un roman qui est paru en 1929, hein, qui est tout de suite un succès assez important, je pense plutôt un succès de scandale, hein, du type Les Fleurs du Mal ou du type Madame Bovary, un succès de scandale pour les passages relativement explicites du texte, qui donc, pour l'époque, valent pornographie finalement. Donc, succès populaire, et aussi succès critique, hein, c'est un livre qui est tout de suite salué par Brecht, par Benjamin, et qui, en fait, livre assez surprenant, parce qu'il repose sur une histoire finalement toute simple. Hein. Je vais vous raconter en deux mots, hein, c'est c'est un personnage qui s'appelle Franz Bieberkopf, qui sort de prison. La punition commence, dit-il, qui sort de prison après avoir purgé une peine de 4 ans pour avoir assassiné son ami Ida de coup de fouet à pâtisserie, Et il sort de prison et il se fait la promesse d'être honnête, de mener une vie honnête. Il veut absolument se reprendre. C'est un ancien débardeur, il a été ensuite proxénète, il avait mis sur le trottoir son ami Ida. Donc on est vraiment dans les bas-fonds de Berlin de l'époque, et il se promet d'être honnête et il va essayer de toutes ses forces. Sauf qu'il dérive dans le Berlin de la fin des années 20. La société se disloque, c'est les dernières années de la République de Weimar, le nazisme est en pleine montée, la crise s'installe. Donc évidemment, il ne trouve pas de travail, il va faire les mauvaises rencontres, notamment une qui va être absolument décisive, et il est progressivement écrasé. Dublin écrit, Bieberkopf est torpillé avec une crudité extrême, monstrueuse. C'est un combat en règle contre quelque chose qui vient du dehors, cette chose imprévisible qui ressemble à un destin. Et il y a notamment une rencontre qui est au cœur du livre, sur laquelle je vais beaucoup revenir, c'est la rencontre avec Reinhold, qui est son espèce de double, son double maléfique. Il est très mystérieusement attiré par cet homme. Fassbinder nous explique que ce n'est pas une attirance homosexuelle, c'est une attirance qui n'a pas de valeur sociale, c'est une espèce d'amour étrange. Je vais beaucoup y revenir, que ça revient beaucoup dans l'œuvre de Fassbinder. Et Reinhold, qui est un bandit à la petite semaine, comme tout le milieu dans lequel circule Franz Bieberkopf. Reinhold va l'entraîner dans toute une série de péripéties, va aussi d'une certaine manière en faire son souffre-douleur. S'instaure aussi entre les deux hommes, et c'est là aussi un motif, si vous connaissez le cinéma de Fassbinder, qui revient beaucoup chez Fassbinder, s'instaure aussi entre les deux hommes une étrange circulation de femmes, c'est-à-dire que Reinhold se lasse très vite de ses conquêtes et les refourgue à Bieberkopf. Donc il y a une espèce de circulation comme ça de femmes entre les deux hommes. Au bout d'un mois, il n'en peut plus, ça l'ennuie. Donc sous un prétexte quelconque, il les refourgue à Bieberkopf. Bieberkopf, au bout d'un moment, en a assez de ce jeu. De son côté, rencontre une femme qu'il aime infiniment, qui est vraiment l'amour de sa vie, Mitze. Cette espèce de circulation de corps, de désir non dit, on ne sait même pas si c'est du désir entre les deux hommes, demeure là, comme ça, suspendu. Et le roman fait près de 600 ou 700 pages. Reinhold va finir par assassiner Mitze, qui ne veut pas se donner à lui. Et ça va évidemment signifier l'effondrement de Bieberkopf. Accusé de ce meurtre, Bieberkopf sombre dans la folie, et comme dit Fassbinder, en sort au terme d'une phase assez longue de catharsis inversée. Il est alors devenu un élément tout à fait utilisable par la société, utilisable ou réutilisable, une chose banale et commune. Et Dublin le plante là. Voilà. C'est une histoire donc, qui tient en quelques lignes, finalement. Et pourtant, on a près de 600 ou 700 pages en poche. Au passage, il faut signaler que c'est vraiment une chance de pouvoir le lire aujourd'hui en français, puisque c'est une nouvelle traduction qui date de 2008 par Olivier Lelay, pour laquelle il a vraiment créé une sorte de langue inouïe en français, pour essayer de rendre l'original allemand qui mêle du yiddish, de l'argot berlinois, des langues techniques, des langues religieuses. Lelay a fait vraiment un travail, c'est une vraie prouesse de traduction, et sachant que la version précédente, qui datait des années 30, était très incomplète. On avait amputé le quart du texte, comme c'était finalement courant à l'époque. On lissait les textes. Donc là, c'est vraiment une chance pour nous francophones, parce qu'on peut vraiment avoir accès à... Il y a des vrais partis pris de traduction qui sont discutables, puisqu'il vraiment, il recrée une langue en français, mais on peut quand même approcher pas mal de la puissance originale. Alors, qu'est-ce qui, finalement, fascine tant Fassbinder là-dedans? C'est tout simplement que Dublin traite ces personnages, qui sont des personnages finalement banals, des petites gens, des petits malfrats, qui au premier abord semblent d'une facture très grossière, il les traite comme des héros de tragédie en fait. Il leur donne une ampleur qu'ont normalement les héros de tragédie. Bon, on pourrait pourrait dire que finalement c'est ce qu'a fait déjà Flaubert avec Madame Bovary, mais bon, il se trouve que c'est ce livre-là qui frappe d'abord Fassbinder. C'est Bibercov qui voue une confiance aveugle en sa seule force physique, souvent abrutie d'alcool, plein de confusion. C'est Bibercov qui semble d'abord une facture donc grossière, peu différenciée, se révèle progressivement dans le livre un personnage complexe, doué d'une imagination aussi riche que celle des plus grands personnages de la littérature mondiale. Et là, je cite Fassbinder, « Dans Berlin Alexanderplatz, on rend justice des émotions, des sentiments, des bonheurs, des désirs, jouissances, douleurs, angoisses, inconséquences, les inconséquences les plus objectivement infimes et médiocres, d'individus en apparence effacés, banals, insignifiants. On accorde aux petits cette grandeur qui d'ordinaire ne revient en art qu'aux grands. » Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, cette espèce d'attention portée, cette espèce de... Alors non pas de glorification, c'est là qu'il y a un point ténu. Cette façon de traiter ces personnages comme des mythes, comme dans une tragédie, ça c'est quelque chose, c'est un véritable trait constant quasiment du cinéma de Fassbinder. Hein. Le moindre fragment de l'intrigue, là je cite aussi Fassbinder je crois, le moindre fragment de l'intrigue est raconté comme un processus grandiose qui vient s'insérer, donc de l'intrigue dans Alexanderplatz, qui vient s'insérer la plupart du temps dans une mythologie mystérieuse ou dans des récits bibliques. Donc, il faut vraiment imaginer Dublin, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, en fait j'y ai pensé juste après, ce qui aurait été super. C'était un peu compliqué à mettre en place, c'était car en fait, ça aurait été des extraits s'affichent quasiment. Parce que dans la matérialité même du texte, rendu par cette nouvelle traduction, c'est très étonnant. Hein. Au beau milieu de cette histoire, donc de cette suite de trafic, de déception, de dépression, de violence, de viol, au beau milieu de cette histoire, sans solution de continuité, hein, vraiment parfois dans une parenthèse, surgit le récit du retour de Agamemnon, par exemple. Donc Agamemnon qui revient de Troie et qui va être assassiné par Clytemnestre. Donc il y a tout un chœur qui raconte ce retour d'Agamemnon. À d'autres moments, dans le récit, c'est Job qui parle avec Dieu. À un autre moment, c'est Isaac et Abraham. Hein, donc Isaac qui ne veut pas être sacrifié par Abraham, et Abraham qui lui dit « Si, il faut, tu n'as pas avoir le choix, etc. » Tout ça avec une espèce d'humour aussi très, très étrange. Tout ça est traité vraiment sur un même plan. Voilà. Et donc, de même que Kafka disait avoir... Il y a une formule très belle de Kafka qui dit qu'il a pris le parti du personnel contre son père qui maltraitait ses employés. De même, chez Fassbinder, la première place est souvent dévolue aux déclassés de toutes sortes, à tous les marginaux du miracle économique. Donc, travailleurs immigrés, prolétaires en général... Hein. Les femmes de petites conditions, les femmes de ménage, par exemple, les vieux, etc. Alors, un premier exemple que je vais vous montrer de cette espèce de traitement, moi j'y vois une espèce de traitement comme ça, héroïque de gens banals, c'est une série, alors là, c'est assez singulier, du coup, c'est un truc qui est ressorti récemment, parce que Fassbinder a aussi fait des séries, donc là, c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle 8 heures ne font pas un jour, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et qui est aussi un objet très singulier, finalement, puisque Fassbinder fait ça justement au moment où il découvre Douglas Sirk, au moment où il commence à faire des mélodrames entre Le Marchand des Quatre Saisons et Tous les autres s'appellent Ali, où je vous montrerai aussi des extraits. Et c'est une série télévisée qui lui est commandée par VDR, on est au milieu des années 70, on est entre 72 et 73. Et c'est peut-être le film le plus... d'une certaine manière, vous allez voir, assez naïf presque, enfin le film, c'est une série dont ont été tournés 5 épisodes. Il y a quelque chose, c'est assez étonnant chez Fassbinder, quelque chose d'assez naïf, extrêmement optimiste, assez joyeux, très drôle aussi par moments, mais qui a cette singularité, c'était inédit à la télévision allemande, de montrer des ouvriers en fait. De montrer des ouvriers sur leur lieu de travail, c'est aussi une série familiale, donc dans leur cercle familial, sur leur lieu de travail, et comment s'élaborent à chaque fois des stratégies. Il y a des problèmes, des solutions, enfin, des tentatives de solutions, comment élaborer des tactiques, etc. Les ouvriers avec leur patron et leur contremaître, ça c'est un petit extrait qu'on va voir, mais une femme avec son mari dont elle veut divorcer, les enfants avec les parents, les vieux avec les jeunes, c'est constamment des rapports comme ça de tension, de domination et des tentatives de solutions, des jeux tactiques, quoi. Alors, ce qui est aussi très singulier pour nous, après, c'est une espèce d'âge d'or étrange des séries, c'est que c'est quand même diffusé en prime time à l'époque sur VDR avec des parts de 50 à 60%. parts d'audience très comparables à Tate Horton, en fait, à l'époque.